Amen, merci à l'équipe qui nous a conduit dans ce moment. J'ai tout trouvé en Dieu, en Christ. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nos baptisés vont proclamer aujourd'hui. Alors quelques mots peut-être pour vous expliquer un peu le cheminement, parce que certains se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être certains dans la salle se disent, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeune que je connais bien, mon enfant, mon cousin, mon copain d'école, de gymnase, d'un coup choisisse de se faire baptiser, quand même. Peut-être qu'il y a des parents qui se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Non, je vous rassure, tout ira bien. Ils ont fait un excellent choix. Et aujourd'hui, ils vous disent, mais regardez bien, je suis transformé. Jésus m'a transformé. Maintenant, je ne veux plus vivre pour moi. Je ne veux plus vivre juste pour moi-même, avec mes désirs parfois égoïstes, centrés sur nous. Sur moi, hein, mais j'ai cru, j'ai vu sa main, j'ai attrapé la main de Dieu et je ne veux plus la lâcher. Je crois qu'on naît tous, nous naissons avec un vide, avec un manque. Puis on dit que ce vide, ce manque, il a la forme de Dieu. Et ça se remarque comment? Ça se voit par notre insatisfaction chronique. Ça se voit par nos mauvaises habitudes, nos désirs impurs. Notre tristesse, notre lassitude face à la vie parfois, notre besoin d'être aimé aussi, besoin tellement important. Puis rapidement dans notre vie, à un moment donné, on nous parle de Dieu. On peut nous parler de religion au sens large. La tension est là, il y a une tension intérieure qui vient se créer. On peut se sentir attiré puis à la fois retenu. Puis généralement, ce qui nous retient, peut-être qu'on ne met pas un mot là-dessus, mais ce qui nous retient, ben, c'est souvent notre orgueil qui nous fait croire qu'on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de Dieu. On peut dire, ouais, mais ça c'est n'importe quoi, mais ça c'est pour les faibles, ça c'est pour ceux qui vivent des difficultés, ils ont besoin de se raccrocher à un truc dans la vie. Moi, je n'ai pas besoin. C'est n'importe quoi. Puis, est-ce que vraiment Dieu existe? Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe dans le monde. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui crie. Quelque chose qui n'est pas satisfait, quelque chose qui dit « mais délivre-moi ». Notre vie est éloignée de Dieu, elle se poursuit malgré tout. Et puis plus on avance, plus on peut sentir que la possibilité de Dieu, elle s'éloigne. Et nos choix nous emmènent dans une autre direction, dans une autre direction. Puis on peut essayer d'être heureux, on peut essayer de combler ce vide par un tas de choses, mais pourtant, ce vide est toujours là. Il y a toujours une question, il y a toujours un manque. Il y a des questions existentielles. Il va se passer quoi après? Ces questions-là, on n'y trouve pas de réponse ou on se donne une réponse pour arrêter de se poser la question. C'est certainement ce que plusieurs de nos baptisés ont expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Ils ont entendu et compris aujourd'hui cette parole de l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset connu, mais tellement capital. Alors pour arriver à ce jour de joie, parce que c'est vraiment un jour de joie, aujourd'hui c'est un jour de célébration, ben ils ont dû accepter de dire une fois ou l'autre, je suis perdu, j'ai besoin de Jésus. Ils ont dû reconnaître avec humilité leur besoin d'être sauvés. Et ce n'est pas facile de reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être sauvé. Mais pour passer d'une vie avec ce vide intérieur à une vie abondante, on a besoin de se laisser, moi j'aime bien utiliser le terme soigner par Jésus. Puis si on n'a pas besoin de soins, bon, on dit souvent hein, les bien portants sont des malades qui s'ignorent. On a toujours besoin d'être soigné intérieurement, en profondeur. Donc lui, Jésus, attend simplement notre oui. Lui, il a tout accompli, lui, il est prêt. Et puis, il attend qu'un jour, on lui dise oui. En fait, j'ai tout essayé, je pensais que je n'avais pas besoin de toi, mais en fait, oui, aujourd'hui, oui. Et puis, c'est vrai que des fois, on dit, ben, c'est quand on se tape le mur que d'un coup, on réalise qu'on a besoin de Jésus. Des fois, il faut ça, il faut qu'on se prenne un mur. Puis c'est pour ça que les autres vont dire, ah ouais, mais c'est parce qu'il était bien mal en point. Hein? Mais il faut des fois aller jusque-là pour qu'on réalise qu'on a besoin d'être sauvé. Alors, il y a un passage dans les évangiles, je vais aller très rapidement. c'est l'appel de Lévi, de Matthieu. Matthieu, donc c'est Jésus qui rencontre ce Matthieu. Matthieu est un collecteur d'impôts. Hein, les collecteurs d'impôts, encore aujourd'hui, bon, on ne les appelle plus trop comme ça, puis on ne les voit pas. De temps en temps, on a une hotline, si vraiment on a un problème, puis on ne sait pas trop qui c'est. On ne les croise pas dans la rue. Mais là, le collecteur d'impôts, c'est vraiment la personne qui percevait les droits de douane à l'entrée des villes. Et puis, c'était cela pour le compte des Romains. Il fallait que ce soit quelqu'un de local, il fallait que ce soit un juif qui connaissait bien la région pour faire ça. Il devait connaître les gens. Et du coup, c'était un juif au service des Romains. Donc, pour tous les juifs, ben, c'était un traître, quoi. Il dit, on ne peut pas servir les Romains. Et en plus de ça, eh ben, bon, bien sûr, ils en mettaient un peu dans leur poche, ils se servaient un peu au passage. Hein, les taxes n'étaient pas toujours écrit le bon chiffre sur le panneau à l'entrée. Hein. Et puis, il y avait ça. Et puis, donc, ils avaient une réputation d'être des voleurs. Ils étaient aussi considérés comme des impurs parce qu'ils étaient en constant contact avec des païens. Et ils travaillaient aussi le jour du sabbat, du shabbat. Donc, c'est quelque chose qui voilà, qui n'était pas possible aux yeux des juifs. Mais Jésus, lui, il ne s'est jamais arrêté à ces barrières-là. Hein, c'est toute sa force. C'est pour ça qu'il a tellement dérangé. Il y a quelque part qui dérange encore. C'est parce qu'il franchit les obstacles. Et il va appeler ce Matthieu. Et il va lui dire même, Matthieu, suis-moi. Et puis, il va aller manger chez lui. Et Matthieu, il invite ses collègues, parce que c'est un peu ses seuls amis. Et puis, du coup, il se retrouve avec Jésus. Et du coup, les religieux, les religieux de l'époque, on appelle les pharisiens, ceux qui respectaient la loi, ceux qui reprenaient les gens hein, sur la morale, etc., qui étaient vraiment les un peu les accusateurs comme ça, mais les garants de la loi. Eh ben, eux, ils avaient des problèmes avec ça. Et puis, ils vont dire à Jésus, ils vont dire aux disciples de Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pêcheurs? Pourquoi? Puis Jésus, qui entend la question, il n'était pas très loin, et je pense qu'eux, ils n'ont même pas osé trop s'adresser à lui. Ils ont dit, on va parler assez fort qu'il entende, mais on ne va pas parler à lui directement. Eh bien, Jésus répond, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical. » La réponse est là. Jésus est venu un peu comme un médecin des âmes, quelqu'un qui vient nous sauver, nous racheter, enlever ce qui est ce péché qui nous colle tellement à la peau. Jésus a vu Matthieu, l'a appelé à le suivre. Toi, suis-moi. Et Matthieu va devenir un fidèle du Christ, un disciple, et c'est même à lui qu'on accorde l'écriture du premier évangile. Et c'est donc extraordinaire, un appel à un homme voilà, d'une vie pas aimé des gens, rejeté, etc. Dieu a apporté ce changement dans sa vie. Celui qui se croit donc bien portant, ben, ne peut pas vraiment recevoir ce que Jésus lui offre. Il faut reconnaître notre état de pécheur, notre besoin de changer pour recevoir sa vie, pour recevoir sa paix, pour recevoir ce pardon. Et puis, encore une fois, il n'y a rien à faire si ce n'est de dire oui. Et c'est ce oui donc que nos baptisés ont prononcé lorsqu'ils ont dit à Jésus, « Jésus, j'ai besoin de toi. Je me sens perdu, viens à mon secours. » Pardon pour tout ce qui m'a éloigné de toi jusqu'à aujourd'hui. Pardon pour mes mauvais comportements, mes mauvais agissements. Maintenant, je veux marcher avec toi. Donc, ils ont changé de direction. On parle d'une conversion. Une conversion, c'est un retournement, changement de direction, 180 degrés. C'est la conversion. Voilà. Avec Jésus, ils ont pris le chemin inverse qui va les conduire ensuite vers une nouvelle destination qui est pleine de promesses. Parce que Dieu, pour chacun d'entre nous ici présents, il a un projet, il a un plan. Puis on n'est pas des marionnettes, on est toujours libre de le choisir ou pas. Mais lui, il a quelque chose de bon pour nous parce qu'il nous a créés. Puis il sait ce qu'il a mis dans nos vies. Il sait ce qu'il a mis dans nos cœurs. Il sait les dons aussi, les capacités qu'il a mis. Il sait ce qu'il pourrait en faire. Mais est-ce qu'on veut entrer là? Alors le baptême, aujourd'hui, pour eux, c'est un acte d'obéissance sur ce nouveau chemin avec Jésus. Jésus a dit, celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé. C'est Marc 16, 16. Jésus lui-même, il a été baptisé, donc il ne nous demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Et puis il a eu cette approbation du Père alors qu'il était baptisé en ces mots, tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il y a un sentiment d'appartenance. Lorsqu'on se baptise, lorsqu'on passe dans ce chemin d'obéissance, eh ben, Dieu va attester aujourd'hui que chacun de ses baptisés lui appartienne. Vous êtes désormais ses enfants et personne ne pourra vous ravir de sa main. C'est important, ça doit être gravé, ça doit être sûr. Et puis le baptême, il représente symboliquement une mort et une résurrection. Romains 6, 3, 5 nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Alors c'est ça, c'est symboliquement, on va les coucher dans l'eau tout à l'heure, puis c'est comme s'ils étaient morts. Dans l'eau, ils sont ensevelis dans l'eau, et puis c'est là, ils lâchent tout, c'est une mort à soi-même, c'est une mort à leur ancienne vie, puis ils vont comme renaître, comme une résurrection pour une nouvelle vie avec Jésus. Alors c'est vrai que des fois, il y en a qui font des petites plaisanteries, hein, ils les font un peu peur, surtout quand c'est des jeunes, on dit « Ah, tu vas mourir !» Mais vous inquiétez pas, tout va bien aller, vous n'allez pas rester 3 jours dans l'eau, tout ira bien. Donc vous allez sortir, cher baptisé, avec une nouvelle page à écrire, une page blanche, le passé derrière, pardonné, et maintenant vous recommencez une vie avec Dieu. Comme Sigrid l'a dit, ce ne sera pas toujours facile. Hein. On pourrait se dire, ce sera magnifique, tout est toujours... Non, on n'est pas exempt de difficultés. Mais conduit par l'Esprit de Dieu, vos réactions seront les bonnes. Vous pourrez faire des bons choix. Il sera toujours là pour vous, pour vous guider. C'est une réalité, une vérité que moi-même je prêche et je vis. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence. Alors soyez attentifs, un petit mot pour vous. Soyez attentifs parce que certains vont vous attendre au contour. Ah ouais, il dit qu'il a changé, on va bien voir. Certains qui peuvent être animés d'un mauvais esprit, on peut dire comme ça, hein, ou l'ennemi de vos âmes simplement, qui veut essayer de voir de manière subtile si vraiment vous avez changé. Mais soyez sans crainte, avancez en lui tenant la main, en tenant la main de Jésus, comme un enfant donne la main à son papa. Et tout ira bien. Je conclue et j'aimerais simplement terminer en disant qu'on est vraiment fiers de vous, fiers de votre choix, on se réjouit avec vous. Votre décision aujourd'hui, elle a une portée éternelle, et puis ça aussi, ça nous dépasse complètement. Hein, on vit un tout petit espace et après, il y a l'éternité. Alors, c'est une portée éternelle, le choix que vous faites aujourd'hui. Et puis, on sait que ce n'est pas toujours facile de lâcher des choses qui vous tenaient. Ça vous a demandé de régler des situations, ça vous demandera encore de le faire. Peut-être régler des choses qui vous faisaient souffrir, accepter que des amis ne comprennent pas votre décision. Et puis c'est aussi un choix de s'engager fidèlement à suivre Jésus. Donc c'est pas sans conséquence finalement, hein. C'est vraiment un choix de vie. Et on est tellement heureux de vous accompagner dans ce moment. Rappelez-vous encore que vous ne souscrivez pas à un abonnement qui vous coûtera tous les mois. Vous n'adhérez pas à un club ou à une religion, vous dites oui à une relation d'amour. Vous dites oui à celui qui donne la vie, qui est capable de combler vos manques les plus profonds. Et ça, c'est le plus important. La parole de Dieu que je vous encourage bien sûr à lire et à connaître, elle a de nombreuses promesses et merveilleux conseils pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et je termine avec Jean 15, verset 9, qui dit « Comme le Père m'a aimé, c'est Jésus qui dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Amen.